Continental, épisode 57. En Suisse et au Kosovo, chanter, s'embrasser, défiler pour faire tomber le patriarcat.
France Inter.
La première.
Full Continental. Caroline Gillet.
C'était il y a quelques mois, et je me souviens précisément dans quelle rue j'étais, alors que je faisais pourtant quelque chose d'assez habituel et assez naze. Je marchais en regardant mon téléphone portable. Je balayais l'écran avec mon doigt, machinalement, sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai entendu ça, l'hymne des femmes, chanté par 600 supportrices à Rennes lors du coup d'envoi d'un match de la dernière Coupe du Monde féminine. Je me suis arrêtée, net, pour pouvoir l'écouter. La vidéo était affichée dans un article du Huffington Post qui titrait « Quel est cet hymne féministe ?». Je n'étais donc pas la seule à ne pas connaître. Et je travaille d'ailleurs cette semaine avec Lucie Lemarchand au montage et Anna Buis à la réalisation. Elles ont toutes les deux 30 ans ou moins et elles ne connaissaient pas non plus. Elles n'étaient pas nées, elles, quand il a été composé cet hymne en 1971 par notamment José Contreras, proche de Monique Wittig, l'une des fondatrices du mouvement de libération des femmes. Je lis dans cet article du HuffPost que José Contreras avait eu l'idée pour cet hymne de reprendre la mélodie du chant du Marais, composé en 1933 par des déportés politiques anti-nazis et juifs dans un camp d'internement allemand. L'air avait été chanté aussi pendant la guerre d'Espagne et donc repris en 1971 par des femmes avec de nouvelles paroles qui disent « Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, asservies, humiliées, achetées, vendues, violées, les femmes, hors du monde relégué. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. » Elles avaient chanté « Notre temps est arrivé » en 1971, il y a 48 ans. J'ai retrouvé ces paroles sur un flyer violet que quelqu'un a dû recevoir à la manifestation pour l'éradication des violences faites aux femmes ce samedi 23 novembre à Paris. Je n'ai pas eu le flyer en lui-même, j'ai eu une photo du flyer qui circulait sur les téléphones portables des filles, des garçons, qui voulaient aussi connaître les paroles pour chanter. Il y avait parmi les manifestants beaucoup d'enfants. Et je me suis dit que j'aurais aimé, à leur âge, connaître cet hymne. Ça me rappelle d'ailleurs il y a quelques mois, à l'occasion d'un karaoké breton, je me souviens d'avoir vu, les unes à la suite des autres, des femmes de mon âge, dont je tairai le nom, qui avaient choisi d'interpréter Belle, chanson issue de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Énorme succès quand j'étais moi-même ado. Et cette chanson, c'était donc trois hommes qui parlent du désir que suscite une femme, si belle, tentatrice, comme si le diable s'était incarné en elle. La chanson d'après, à cette même soirée karaoké, avait été interprétée par trois jeunes filles de 5 ou 7 ans. Je suis très mauvaise en âge d'enfant. Trois jeunes filles, même pas encore adolescentes, car tout le monde sait qu'elles ne fréquentent plus les karaokés malheureusement à l'adolescence. Ces jeunes filles chantaient « Balance ton quoi » d'Angèle. Une chanson qui dit « J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait pas mal. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond, t'as compris. Balance ton quoi ?» Un jour, peut-être ça changera. Et le clash entre ces deux chansons, entre ces deux générations réunies par la magie du karaoké, c'était assez émouvant. De se dire que ces futures femmes, celles qui chantaient Angèle, elles allaient avoir quelque chose dont on avait sans doute manqué. Se dire aussi qu'il faudrait que ça arrive vraiment plus souvent, d'aller au karaoké. Peut-être un jour ça changera, et peut-être que ce sera avant 2019 plus 48 ans, soit environ 2071. En tout cas en Suisse, les choses bougent. En juin dernier, vous rappelez peut-être qu'il y a eu une grève des femmes. C'était la plus grande action politique dans le pays depuis 1918. Voilà Manon, que j'avais donc rencontrée à Lausanne il y a quelques semaines.
Et puis donc le 13, on est arrivé devant la cathédrale et là c'était bondé. Et la cathédrale s'est illuminée de violet. Et en fait, il y a une tradition à Lausanne, c'est qu'il y a un guet qui crie l'heure à la fin de la nuit jusqu'à 2h du matin. Et là, c'était des guettes qui ont crié que la grève féministe avait sonné. C'était fou.
Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle du Kosovo et du collectif Aveit qui a été fondé en 2011. Lola en fait partie, avec sa petite sœur et avec deux copines, elles aussi deux sœurs. Ça fait deux paires de sœurs donc. Il y a Alketa et Lola Silaj d'un côté, Vesa et Anna Kena. Elles sont toutes les quatre dans la fin de vingtaine et elles veulent ensemble s'attaquer à cette idée qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Parce qu'ils sont trop sensibles ou trop tabous, le collectif Aveit a été créé pour mettre dans le débat public ces questions dont beaucoup préféreraient qu'on les laisse de côté, en tout cas pour maintenant. Et parmi ces questions, il y a celle de la place des femmes dans la société kosovare. Lola, avec le collectif Aveit, produit des actions souvent dérangeantes dans l'espace public et aussi des vidéos comme celle qui s'appelle Tager. Le mot albanais Tager, ça veut dire juste. Et avec cette performance, elles avaient voulu faire bouillir un livre traditionnel dont les idées infusent encore dans la société kosovare d'aujourd'hui.
The Book of Lekdugajeni Law.
Ce livre traditionnel, le Kanun, c'est une sorte de livre de droit très ancien. Ici, on en parle souvent parce que c'est comme un livre de conseil sur ce qu'il faut faire et comment se comporter. C'est très vieux et les gens, ils y sont très attachés, ils sont très fiers de ce livre. Il y a des parties qui sont très très belles, qui ont du sens. Mais il y en a aussi qui sont très très sexistes.
The women's have no right
dans lesquelles les femmes n'ont aucun droit.
You have this part
par exemple, il est écrit que quand la fille se marie, le père donne right au futur mari le droit de la tuer si elle ne se comporte pas comme il faut.
Husband,
il peut même lui donner les munitions pour l'abattre.
Voilà quelques informations de plus au sujet du kanoum. Kanoum vient du mot grec kanon, qui signifie règle et qui serait arrivé dans la langue albanaise via le turc. Parce que oui, au Kosovo, on parle majoritairement albanais. Le kanoum albanais, c'est un livre de lois, de coutumes, qui ont été transmises dans les montagnes du nord de l'Albanie à l'oral, de génération en génération, et qui date à l'écrit du 15e siècle. Aujourd'hui, le texte compte 12 chapitres de règles, notamment sur l'église, la famille, le mariage, la maison. Parmi les préceptes, je lis que la maison de l'Albanais appartient à Dieu et à l'invité. Il y a aussi les règles sur le travail, la propriété, les discours, l'honneur. Ça doit être trash, la section honneur. Ça concerne enfin le droit judiciaire. Le texte instaure des règles strictes sur l'héritage. Les femmes ne doivent pas devenir propriétaires. Et d'ailleurs, seuls 17% d'entre elles aujourd'hui possède un bien immobilier. 10% seulement dirigent un commerce, la plupart travaillent à la maison, et un tiers d'entre elles, entre 15 et 19 ans, ont déclaré encore récemment qu'un homme a le droit de battre sa femme si elle commet des fautes dans le foyer.
Alors on a pris ce livre et on a inventé une recette pour le cuisiner. C'était pour le 8 mars. La vidéo s'appelle « Recette pour cuisiner un livre sexiste ».
Like the recipe.
Donc, il vous faut une plaquette de fluor, le bouquin, 10 bagues, un briquet et un stylo. Et donc, tu mets le livre sur le feu jusqu'à ce qu'il devienne noir. Ce qu'on voulait raconter avec ça, c'est à quel point tout ça est indigeste. Les femmes n'ont aucun droit et on est obligé d'avaler ça encore aujourd'hui.
On va parler ici des actions et des motivations des quatre filles qui composent le groupe Aveit. Mais d'abord, je vous propose de mieux apprendre à connaître Lola, une des quatre du groupe donc, qui m'a proposé de la rejoindre chez elle à la tombée de la nuit. Et elle m'a beaucoup émue, peut-être parce que elle, sa maison, ses neveux et nièces semblaient tous très vivants, alors que c'était un moment difficile pour la famille qui était endeuillée. Tout le monde était parti au village ce soir-là pour enterrer un proche, et Lola était seule pour garder les enfants. Je l'ai admirée, malgré mon insistance d'avoir maintenu le rendez-vous et d'être si joyeuse. Elle m'avait donné rendez-vous donc dans la maison où elle a grandi, dans un quartier populaire du centre de Pristina, la capitale kosovare. Et comme l'adresse exacte est dure à trouver, elle m'a dit rendez-vous devant le théâtre d'Odona. Une fois arrivée sur place, je n'avais plus de wifi, pas d'autre moyen de la contacter, alors je l'ai effectivement attendue. Et j'ai par ailleurs pensé au moment où vous alliez écouter cette histoire, alors j'ai enregistré un petit commentaire d'observation.
Pour arriver au Dodona Theater, je suis passée devant une salle où il y avait des garçons qui jouaient au billard, plein de jeunes filles habillées en jeans avec des t-shirts noirs. des maisons avec beaucoup de fils électriques. Là, il y a un petit garçon qui court depuis un autoservice jusqu'à un Nails by Mia, un nail artiste, artiste qui fait les ongles, pédicure, manicure. Dans la rue, il y a donc ce théâtre inauguré en 86. Un théâtre de marionnettes.
Et puis, quand plus personne ne passait, que je n'avais plus rien à dire, j'ai lu le panneau devant le théâtre qui expliquait ce que c'est cet endroit, près duquel Lola a grandi. Le théâtre d'Odona a été fondé en 86 par l'Assemblée municipale de Pristina. Malgré les mesures violentes du régime serbe à l'égard des institutions publiques kosovares en 94, Dodona a continué de travailler sans interruption et ce théâtre est devenu un bastion de résistance de la culture albanaise face au régime serbe. Pour rappel, la guerre du Kosovo, elle a eu lieu entre 98 et 99. Et elle opposait la Serbie à sa province du Kosovo, province à majorité albanophone, qui luttait pour son indépendance.
À l'époque, on n'avait pas de portable, seulement la télé. Mais à la télé, il n'y avait rien de bien. Alors on allait jouer dans la rue, on inventait des jeux et on allait au théâtre. Mais parfois, on n'avait pas d'argent pour payer l'entrée. Alors du coup, on allait cueillir des fleurs dans le jardin d'un ami. Et on revenait, on disait, on n'a pas d'argent, mais on a des fleurs. On était vraiment toutes jeunes, alors ça les touchait et puis ils nous laissaient entrer. Il faut dire que c'était pendant la guerre. Il y avait beaucoup de villages en feu. Beaucoup de gens qui se faisaient tuer. Et le théâtre de Dodona, il résistait avec l'art. C'était leur manière de protester. Je me souviens d'une actrice. Elle était super courageuse. C'était notre modèle. Elle était grande, jolie et surtout très bonne actrice et très drôle. Et elle a été tuée par la police parce qu'elle voulait être libre. On lui disait, Adriana, fais attention à toi. Mais elle s'en fichait. Ils l'ont tuée dans un bar où elle prenait un café. Elle savait qu'elle était en danger, mais elle sortait quand même et elle est morte de manière courageuse.
Et qui l'a tuée ?
La police serbe. Ils ont bombardé ce bar où elle prenait son café. Ils savaient bien que c'était l'endroit où les jeunes et les artistes se retrouvaient. Donc ils ont commencé à tirer, à jeter des bombes, et elle a été tuée. Sa mère l'a enterrée avec une robe de mariée parce qu'elle ne l'a jamais vu se marier et elle voulait voir ça. C'était très triste.
Lola et les filles du collectif Aveit se sont inspirées de cette histoire pour une action féministe. Une marche lente, en robe de mariage, avec autour des petites télévisions, comme dans les années 90, qui diffusent la voix de la comédienne. Les quatre filles de Aveit ont été aussi inspirées par le film The Hours, autour de la vie de Virginia Woolf, et également par les manifestations de femmes de l'époque de leur mère au Kosovo.
Pendant les années 90, les femmes ont résisté à leur façon et elles nous ont inspirées. Elles ont donné du pain, des choses à manger aux gens de Drenica. Puis elles ont manifesté d'une manière très créative. Elles ont fictivement divorcé de la Serbie et elles ont fait des manifestations avec des clés. Ça faisait beaucoup de bruit. Alors ça, c'est ma maison. J'ai grandi ici avec ma sœur Alketa. J'habite plus ici maintenant, je vis avec mon copain.
Lola est grande et fine, elle est blonde. Elle est habillée ce soir-là avec un top rose et une mini-jupe en jeans. Elle a un collier avec une Vierge Marie autour du cou. Elle dit qu'elle n'est pas croyante, mais qu'elle trouve ça très beau, les objets et les peintures religieuses. Dans son pays, notamment au sud, il y en a beaucoup dans les églises. Quand on entre dans sa maison d'enfance, on peut penser d'abord que l'intérieur de cette maison a été un jour un extérieur, parce que tout est en béton et sur les marches d'un grand escalier, on a posé des tapis. Un tapis, ça couvre environ 6 marches, il y en a donc 3 et 18 marches pour monter chez elle. Elle me dit qu'elle a beaucoup joué avec ses 3 sœurs sur ces marches et à droite de ces marches, il y a des chaussures de tailles variées. Beaucoup de sandales, parce que quand on s'est rencontrés, c'était encore l'été.
Where was your room?
It was this one, me and Alkieta.
C'était celle-là. J'y dormais avec Alkieta.
My father working here.
Mon père, il travaille ici, il a été prof de français au lycée. Mais maintenant, il traduit des livres de Maupassant, de Rimbaud. Et moi et Alkieta, on lui demandait toujours, traduis-nous quelque chose de Rimbaud. On adore Arthur Rimbaud.
This is Anika.
Hello Anika, how are you?
This is Caroline.
Hello, pleased to meet you. Are you good?
Yeah.
Yeah.
This is my little brother.
Voilà la nièce de Lola qui confirme que sa tante est une excellente babysitter. Par ailleurs, c'est totalement hors sujet. Mais est-ce que cette enfant de 8 ans ne parle pas un anglais incroyable? Et où l'a-t-elle appris, me demandais-je? Pourquoi n'a-t-elle pas le même accent de sa tante quand elle le parle? Et à la place, pourquoi a-t-elle l'accent des comédiens de cette série qui passait ce jour-là à la télé?
Really?
Il y a dans la maison un salon avec un canapé face à la télévision, une table, une cuisine et deux chambres. Celle qu'on me montre est aujourd'hui très sérieuse avec un bureau et beaucoup de livres. Mais j'imagine que c'était un peu différent à l'époque où Lola grandissait ici avec ses trois sœurs.
Ah ouais, on avait plein d'affiches de métal, de grunge, de rock. On imprimait aussi des articles de magazines pour les coller contre les murs. Et avec le temps, les choses ont changé, on les a enlevées. Aujourd'hui, c'est juste une chambre comme toutes les autres. Quand on était plus jeune, on se disputait beaucoup avec ma sœur Alkieta. Mais plus tard, pendant l'adolescence, on a commencé à sortir ensemble, à traîner dans les mêmes bars, et puis on a commencé à travailler ensemble. Et maintenant, eh ben, on passe la plupart de notre temps ensemble. Tu sais, tous mes amis, ils nous enviaient. J'avais une amie qui était aussi notre voisine. Et comme on avait des problèmes d'électricité à l'époque, à chaque fois que le courant était coupé, eh ben on chantait. Tous les quatre, on chantait des chansons histoire de faire quelque chose de marrant parce qu'on ne pouvait plus regarder la télé. On ne pouvait plus rien faire. Alors on chantait jusqu'à ce que le courant revienne et on s'amusait vraiment bien.
Quand elle raconte ses histoires, Lola me fait penser aux quatre filles du Dr March. Et je trouve ça totalement réjouissant.
Et mon amie, elle disait qu'elle était jalouse parce qu'elle n'avait pas de sœur et que nous, bah, on était toujours ensemble en train de s'amuser. Ma mère, elle était un peu triste de ne pas avoir eu de fils à cause des mentalités ici et qui sont un peu... Du coup, elle se disait que quelque chose n'allait pas chez elle. Mais mon père, par contre, il n'en a jamais parlé. Il était content de nous avoir et on ne l'a jamais entendu dire qu'il aurait préféré avoir un garçon. La langue française l'a aussi un peu changé à travers la littérature, les poèmes, les livres qui l'ont inspiré. Tu veux un café? Un café turc? Avec une cuillère de sucre? Ouais, moi aussi je l'aime comme ça.
Accrochez-vous, nous allons maintenant apprendre ensemble à faire du café turc. Tous ceux qui ici savent déjà en faire, surtout ne dites rien. Il faut mettre deux tasses d'eau dans la cafetière.
Tu remplis deux tasses, des petites tasses.
Allume l'électricité.
T'allumes l'électricité.
Mettre beaucoup de sucre d'abord, et puis ensuite le café. Le collectif Aveit a été fondé parce que la sœur de Lola, qui s'appelle Arketa, était avec Anna à l'école d'art. Elles avaient joué ensemble une pièce de Shakespeare et c'est grâce à ça qu'elles se sont rapprochées. Lola me dit que Pristina, c'est tout petit, alors elles ne se sont pas rencontrées à l'école à proprement parler, elles se connaissaient forcément déjà avant. Mais elles s'y sont mieux connues et le collectif, ça a commencé comme ça.
Parce qu'on a traîné dans les mêmes bars, on avait les mêmes goûts de musique ou de ciné. On a commencé à parler de ce qui se passait ici, à se raconter à quel point on détestait la fac d'art.
Pendant que sa sœur Arketa étudiait l'art et rencontrait Anna, Lola, elle, étudiait le cinéma. Elle raconte que dans sa fratrie, elle et sa sœur Arketa avaient donc pu étudier, comme elle le souhaitait, les arts, alors que les deux aînés ont dû faire ce qu'imposaient les parents. Elle me dit l'aînée, par exemple, elle avait commencé des études de médecine, elle s'est finalement révoltée et elle est devenue journaliste.
Dans le pot qui était sur le feu, et tu as attendu que ça boue, et puis quand ça a commencé à bouillir, j'ai vu que tu étais très attentive. Dès que ça a commencé à bouillir, tu as retiré la...
Essentiel et plus facile à faire, car il faut juste les acheter et les mettre sur une assiette, les loukoums, qui accompagnent à merveille le café et qu'elle m'a proposé ce soir-là.
On a voulu faire une performance pour dénoncer les coupeurs d'eau courante, parce que pendant 14 ans, ça n'arrêtait pas à Pristina. Et tout le monde s'était habitué à cette situation. On n'avait pas d'eau et on ne protestait pas, on ne faisait rien. Alors on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose. Vous avez peut-être vu des photos, on s'est réunis pour laver notre linge à la fontaine près du Théâtre National. Des passants se sont arrêtés et ont même fini par applaudir. C'était génial. Et parmi les spectateurs, certains n'ont même pas compris ce qui se passait, puis d'autres oui. Après, on l'a expliqué sur notre page Facebook et les gens ont compris.
Donc l'idée, c'était de dénoncer le fait qu'il y avait beaucoup de coupures d'eau et que finalement, du coup, pourquoi est-ce qu'il y avait de l'eau dans les fontaines et pas dans les maisons ?
Exactement. Le maire de Pristina pensait qu'il fallait installer des fontaines pour que la ville plaise aux touristes. Mais le problème, ce n'est pas les fontaines en elles-mêmes. C'est surtout qu'on ne mettait pas l'argent nécessaire pour régler le problème de l'eau. Au lieu de ça, on investissait dans des trucs de luxe, comme des fontaines, pendant que nous, on n'a pas cette ressource fondamentale. On n'avait pas de quoi laver notre linge, pas de quoi boire. En plus, ça donne l'idée que Pristina a de l'eau, alors que nous, ses habitants, en fait, on n'en a pas. Donc, on est allé laver notre linge à la fontaine, comme dans l'ancien temps.
Ici, vous entendez les fontaines, c'est le son issu de la vidéo de leur action, où on les voit toutes les quatre habillées en couleur, en symétrie, laver le linge à l'eau de la fontaine, en silence.
Donc, c'était ici, il y a 6 ans, la première action. Vous avez lavé les vêtements dans la fontaine.
À la fin du café, à la fin de la soirée, Lola a proposé de me ramener à l'hôtel pour ne pas que je me perde. Et comme Pristina est petit, on est passé devant la fontaine où avait lieu leur première action. Elle se situe sur la place centrale, où il y a par ailleurs beaucoup de passages, surtout le soir quand il fait doux, beaucoup de familles, attirées peut-être par les pop-corns et par les petites voitures électriques pour enfants qu'on peut louer au quart d'heure. Au milieu, il y a donc cette fontaine, éclairée de toutes les couleurs, c'est assez kitsch, et où les enfants passent en courant et en criant pour se faire peur.
C'est bien qu'on ait de l'eau maintenant, c'est bien pour les enfants. Mais moi, j'aime pas l'éclairage.
Est-ce qu'il y a plus d'eau courante dans les maisons maintenant ?
Oui, on a l'eau maintenant. Finalement, ils ont pris tout ça au sérieux. Après notre performance, tous les politiciens ont parlé sérieusement de notre problème. Ils n'ont pas arrêté de promettre de l'eau courante. Ils disaient, on va avoir de l'eau cette année.
Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à vous ?
C'est beaucoup dire, mais d'une certaine manière, on a fait le premier pas. On a déclenché un débat, je pense. Tous les partis politiques confondus, ils ont parlé de nous, de notre performance. Et il était aussi question de nous dans quelques émissions télé.
Est-ce que vous allez faire maintenant une performance sur la corruption, comme ça, ça s'arrête ? C'est un peu la prochaine urgence.
That's a good idea.
Ah, ça, c'est une bonne idée, mais c'est pas si simple que ça.
But we will keep in mind that.
Mais je le garde en tête.
You're welcome.
Après le disque, je vous propose un détour par Lausanne avec Manon, co-organisatrice là-bas de la grève des femmes. Manon qui, par ailleurs, a commencé à perdre Louis à 17 ans et qui aujourd'hui travaille pour donner accès à ces manifestations aux sourds et malentendants. Djoubaka propose cette semaine 3 artistes femmes pour la programmation. Il me dit « Voilà 3 musiciennes qui affirment des choses très différentes dans leur musique et qui montrent que la place des femmes change dans ce monde-là ». Il dit par ailleurs c'est un milieu encore très machiste. Il y a une majorité de techniciens, de musiciens, de directeurs de maisons de disques qui sont des hommes et ça a mis 20 ans depuis Riot Girls pour que le milieu s'ouvre enfin aux femmes. Mais ça y est, ça bouge enfin, dit Djoubaka. Il y a 10 ans, pour une émission sur les femmes comme nous sommes en train de faire aujourd'hui avec Full Continental, on aurait été obligé d'aller chercher des standards dans l'histoire de la musique. Parce que dans l'actualité musicale, il n'y aurait pas eu 3 profils comme ça. Aujourd'hui, ce qui change dans la musique, ce n'est plus tellement le son et ce qui est produit, mais il y a un vrai renouvellement dans le genre, et c'est tant mieux. On commence par Big Thief, avec ce titre « Note ». Stable, nor your stable words.
Vous écoutez Full Continental sur France Inter et la première de la RTBF. Et peut-être que vous aussi, un jour, vous avez protesté en chanson pour des choses graves ou beaucoup plus futiles. Peut-être qu'il vous a fallu un hymne pour vous faire entendre. Au Chili, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, le collectif féministe Las Tesis de Valparaiso s'est réuni dans l'espace public. Des femmes, souvent très jeunes, habillées en robes, en t-shirt moulant, de couleur, les yeux bandés d'un ruban noir, toutes rassemblées, font les mêmes gestes, debout, à genoux, et elles ont scandé ceci. Les disparitions, les féminicides, les viols, la faute n'était pas la mienne, ni où j'étais, ni la façon dont j'étais habillée. Le violeur, c'est toi, et le système judiciaire, le président sont responsables. L'État est un macho oppresseur. La vidéo a circulé, elle a dépassé le cercle de Valparaiso, les frontières du Chili, pour arriver jusqu'à nous et nous donner des frissons à toutes dans le bureau de Full Continental, 6e étage, porte F, de la Maison de la Radio. Dans cet épisode de Full Continental, on parle de ça, de celles qui utilisent leur corps, qu'ils mettent dans l'espace public pour revendiquer plus de droits. Il y a Lola qui, avec son collectif Havate, imagine des actions dans les rues de Pristina. En Suisse, en juin 2018, il y a eu celles qui ont organisé la grève des femmes, plus grande action politique dans le pays depuis la grève générale de 1918. Au moment de cette grève des femmes, c'était ce chant-là qui était arrivé jusque dans notre bureau. Et on avait adoré et frissonné. À l'époque, on ne connaissait pas Manon. Et c'était bien dommage. Entre-temps, heureusement, ça a été rectifié. Manon a 27 ans, elle a fait des études de sociologie. Elle dit qu'après avoir appris à critiquer les politiques sociales, elle a voulu aller voir sur le terrain. Elle est devenue éducatrice sociale. Par ailleurs, Manon est activiste, féministe, et depuis l'adolescence, elle est malentendante. Alors elle s'engage à porter ses combats auprès de ceux qui n'entendent pas. Elle a participé à créer l'association féministe LSF pour langue des signes française, avec lesquelles elle coordonne des actions et elle assiste celles qui, comme Sophia ou Laurette, traduisent les chants de révolte, les pamphlets et les discours politiques en langue des signes française de Suisse romande.
J'ai grandi dans une société sexiste, j'ai vécu une éducation et une scolarisation sexiste. Et ça fait que ben, j'ai des schémas de pensée, des façons d'être au monde qui sont profondément genrées, quoi. Et c'est pas si facile, en fait, d'opérer une déconstruction comme ça. Enfin, il y a plein de trucs que je me dis que j'aurais fait différemment si j'avais été un garçon. Enfin, genre, déjà, j'aurais fait du skateboard, j'aurais fait plus de freestyle en snowboard, enfin, comme tous mes potes, parce qu'en fait, j'aurais fait la même chose qu'eux. En fait, il n'y a pas de raison pour que je ne l'ai pas fait, si ce n'est que je suis une fille.
Et du coup, comment est-ce qu'à 16 ans, quand tu ressens ces inquiétudes-là, est-ce que tu te sens puissante? Est-ce que tu en parles avec tes parents? Est-ce que tu commences déjà à t'approcher de mouvements?
Je pense que je participais déjà aux manifestations, mais ça déjà enfant, parce que ma mère allait pour défendre les personnes sans papier, pour défendre les attaques un peu contre le système social ou les personnes, en fait. Mais je pense que je savais même pas qu'en fait on pouvait être dans la lutte, qu'on pouvait être militant, j'en savais rien, en fait.
Et donc, à 17 ans, tu commences à avoir un problème d'audition?
En fait, je me rends compte en classe, donc j'étais au gymnase, donc c'est l'équivalent du lycée. Tout d'un coup, ben, y a eu un diagnostic, c'est-à-dire surdité bilatérale, au début légère, puis peu à peu plus sévère. Et donc j'ai dû en fait accepter ça et réfléchir comment j'allais prendre cette donnée-là et la mettre dans ma vie, en fait.
Ce jour-là, Manon a raconté tout son cheminement, le jour où elle a finalement bénéficié d'un implant cochléaire, ce que ces changements avaient supposé dans sa façon de grandir, de sociabiliser et de se percevoir. En l'entendant, on s'est dit qu'il fallait faire une place plus longue pour ce récit-là. On lui donnera la parole donc sur ces questions dans un prochain épisode de Full Continental. Mais ici aujourd'hui, on fait de la place pour la question de la grève des femmes et la participation singulière de Manon.
ça rejoint vraiment mes combats. Quand j'ai commencé à travailler à Lausanne, je me suis rendu compte en fait qu'il me manquait un truc un peu dans ma vie, qu'il me manquait un collectif dans lequel essayer de lutter. C'est comme ça que j'ai rejoint Solidarité. C'est un mouvement politique donc qui est révolutionnaire, mais qui a aussi des échéances à court terme ou moyen terme, disons. Ok, c'est pas parfait, certainement il n'y a aucun mouvement politique qui est parfait, enfin je pense qu'aucun mouvement même se revendique comme étant parfait. Mais en fait, rien faire, c'est pas positif. Et surtout, je me sentais très impuissante en fait face à l'état du monde. Et cette décision-là de participer à un groupe, en fait, ça a été génial. Enfin, où en fait, j'étais là, ah mais il y a quand même des gens qui pensent comme moi, mais c'est génial. Et des trucs d'expérience vraiment ultra individuelle qui est tellement positive. Même si la plupart du temps on discute de trucs qui sont glauques, ben en fait ça donne d'espoir de dire ah, ok, on n'a pas besoin de recommencer à zéro, il y a plein de choses sur lesquelles on est déjà d'accord. Ben, on fait des tours de parole, on fait parler des gens qui n'ont pas encore parlé en premier, les femmes parlent en premier, voilà, donc dans le tour de parole en fait les femmes passent avant. Parce qu'il y a eu constat qu'en effet, les hommes parlent plus longtemps et parlent plus que les femmes à l'intérieur du mouvement. Donc comment on fait en fait pour contrecarrer ça, qui va vraiment contre nos idées féministes? Donc voilà, on a mis ça en place. Mais ça marche bien, ça marche super bien.
En Suisse, les femmes ont le droit de vote et d'éligibilité seulement depuis 1971. Et l'avortement n'a été dépénalisé qu'en 2002. À peine un tiers des chefs d'entreprise aujourd'hui sont des femmes, les hommes ont encore des salaires de 19,6% de plus que les femmes en moyenne. Le manque de crèches dans le pays force par ailleurs beaucoup de femmes qui auraient aimé faire autrement à rester au foyer. Pour toutes ces raisons, les femmes suisses ont organisé la grève du 14 juin 2018.
Parce qu'en fait, il y a déjà eu une grève féministe en Suisse en 1991. Donc, moi, je l'ai vécu depuis l'intérieur du ventre de ma mère. On était ensemble de 8 mois. Et il y a le 2 juillet 2018, une réunion qui est organisée par ces copines syndicalistes qui ont envie de, en tout cas, de réfléchir à la question d'une potentielle grève en 2019. Et en fait, c'est un succès monstre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont là. On a voté à l'unanimité la grève en 2019. Et ça s'est peu à peu propagé sur la Suisse alémanique. La première partie du travail de la grève, ça a été de rédiger un manifeste qui est encore d'actualité, qui regroupe 19 revendications qui, vont plus loin que l'égalité salariale.
Le 14 juin 2018, plus de 500 000 femmes sont descendues dans les rues de Zurich, Berne, Lugano, Genève ou encore Lausanne pour organiser des rassemblements, des actions, faire du bruit et dénoncer le manque de respect, l'inégalité et les injustices, notamment économiques.
Donc le coup d'envoi de la grève, ça a été à minuit une. Et moi, j'ai passé la soirée du 13 avec des copines à faire de la sérigraphie. Des t-shirts, des pulls et tout ça avec un logo trop cool d'une copine qui a dessiné Patriarcha is over avec un sculpto comme ça sur le pull, enfin, trop bien. Et puis donc le 13, après ça, on est arrivé devant la cathédrale et là c'était bondé et vraiment on s'attendait pas à autant de gens à minuit. On n'arrivait plus à se faufiler, enfin c'était magnifique, il y avait une énergie dingue. Et la cathédrale, c'est illuminée de violet. Et en fait, il y a une tradition à Lausanne, c'est qu'il y a un guet qui crie l'heure de la nuit jusqu'à 2h du matin. Et là, c'était des guettes qui ont crié que la grève féministe avait sonné.
Les guets, ils étaient indispensables au Moyen-Âge pour surveiller et alerter en cas d'incendie. Ils crient encore aujourd'hui l'heure en chapeau noir depuis le clocher de la cathédrale de Lausanne. On a retrouvé ce petit reportage de Notre Histoire sur le sujet. Voilà un extrait pour mieux comprendre la portée symbolique de ce qui s'est passé en juin 2018.
Ce qui fait la spécificité du guet à Lausanne, c'est surtout la longévité et la durée ininterrompue de son existence. Les premières traces écrites datent de 1405.
De 22h à 2h du matin, hiver comme été, le guet fait le tour de son clocher. Écrit les heures, comme il l'a toujours fait.
et on a retrouvé ce son de la toute première guette.
C'était un moment incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai dormi 3 heures. Et le lendemain matin, je suis allée sur le pont Bessières. Il pleuvinait, c'était pas ouf. Il n'y avait pas non plus énormément de gens. Et on a pris le petit déjeuner un peu sous la pluie, comme ça. On ne s'attendait pas, du coup, à ce qui se passe un peu après. Vers 11h, il y a beaucoup, beaucoup... Alors, le point central de la grève féministe, c'était la place Saint-François. Et vers 11h déjà, c'était bondé. Enfin, le matin, il n'y avait plus personne. Hein. À 8h30, 9h, pas grand monde, quelques petits stands qui se montaient un peu. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. À 11h24, il y avait en fait, le manifeste de la grève féministe était lu simultanément partout en Suisse. Donc, on s'est retrouvés sur la place. Il y avait une petite estrade, etc. Et une copine a pris la parole, donc elle a expliqué les discriminations spécifiques des femmes sourdes. Et puis ensuite, il y a eu une action qui était organisée qui s'appelait l'hymne des femmes, qui a été chantée à plusieurs endroits de la ville de Lausanne.
En juin dernier, vous rappelez peut-être qu'il y a eu une grève des femmes. C'était la plus grande action politique dans le pays depuis 1918. Et à cette occasion, l'hymne des femmes avait été repris. On entend les manifestants le chanter ici. Et sur l'estrade, à cette occasion, des femmes traduisaient pour les sourds et malentendants.
Il y a deux copines qui l'ont fait en langue des signes en même temps, en fait. C'était vraiment trop, trop beau.
On ne voit pas sur la vidéo Manon, 28 ans, mais elle était là ce jour-là. Et elle fait partie du collectif qui a traduit l'hymne en langue des signes française de Suisse romande. Et c'est assez génial de regarder sur l'estrade les deux femmes qui signent en même temps le refrain. Debout, on les voit qui tendent les mains paumes vers le ciel, et puis les mains regroupées comme si elles étaient enchaînées, ces mains qui ensuite, arrivées au-dessus de leur tête, se libèrent.
En rentrant le 13, la nuit du 13 au 14 juin, il y avait des traces partout de notre passage, il y avait des points de rendez-vous pour le cortège du lendemain, à même le sol, il y avait toutes les affiches taguées, vandalisées, en mode antisexisme. La ville était changée, en fait. La ville était féministe. C'était fou.
Et est-ce que toi, ça t'a fait évoluer dans ta façon d'observer le mouvement féministe et ta place de femme dans le monde ?
J'ai l'impression que tout d'un coup, on nous a pris au sérieux. Mais ça a pris du temps. Ça n'a pas été directement le cas. Et puis, voilà. Aussi, ça a pu mettre en évidence les détracteurs. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui n'étaient pas favorables à cette grève, qui étaient pour que les femmes restent à leur place, c'est-à-dire pas faire de bruit. Et puis ça, c'était d'un coup explicité. Donc c'était intéressant. Et on s'est rendu compte qu'on nous prenait quand même encore pour des débiles.
Suite à cette grève massive et après 30 tentatives en 20 ans, le Parlement suisse a finalement adopté une loi autorisant les hommes à prendre 2 semaines de congé paternité dans les 6 mois après la naissance de leur enfant. Par ailleurs, lors des élections fédérales d'automne 2019, le Conseil national s'est davantage féminisé et compte désormais 42% de femmes, soit 10% de plus qu'en 2015. Après le disque, on retrouve Lola au Kosovo, qui avec son collectif Aveit a osé ce que personne n'avait tenté avant elle dans les rues de Pristina. Voilà d'abord Alani, papa.
Please, always, always, always.
France Inter et la RTBF. Full Continental, Caroline Gillet.
I like the watermelon.
Vous êtes au Kosovo, dans la maison où Lola a grandi avec ses trois sœurs et ses parents. Lola, c'est une jeune activiste qui, avec son collectif Aveit, réalise des actions et des vidéos pour dénoncer les violences faites aux femmes, le patriarcat, mais aussi les discriminations homophobes et le nationalisme. Par ailleurs, ce soir-là, Lola fait du babysitting pour les enfants de sa sœur, auxquels elle a apporté des bonbons à la pastèque. Je demande à sa nièce de 8 ans, Annika, si elle se considère comme féministe. Lola lui explique le mot. Elle dit, c'est être une femme forte et indépendante. La petite Annika a été embarquée à presque toutes les actions de ce collectif semi-familial puisqu'il est composé de deux duos de sœurs, Lola et sa sœur, et deux autres copines. Annika, elle, avait 3 ans quand Aveit, pour protester contre le manque d'eau courante dans les maisons, avait mené une action où elles avaient lavé leur linge dans les fontaines publiques de la ville. En 2013, les 4 activistes de Aveit s'insurgent contre le traitement que reçoivent les femmes qui portent plainte pour viol. Certains députés kosovars avaient réclamé que les plaignantes soient examinées par un docteur pour établir si elles disaient la vérité ou si elles voulaient seulement extorquer une pension à l'État. Les filles de Aveit disent qu'au début, elles ne savaient pas vraiment quelle forme leur militantisme allait prendre. Je lis dans une interview parue dans Kosovo 2.0, on s'est juste réunis pour une performance et à la fin, on a tellement aimé ça qu'on s'est dit « Ok, on va continuer à en faire autour de tout ce qui nous dérange ». Et généralement, elles travaillent de façon assez impulsive. Elles ont une idée, elles en discutent et quelques jours plus tard, elles font en sorte que cette idée prenne forme. Un jour, elles se sont ainsi mises en scène dans un décor de supermarché en poussant des caddies remplis de verres brisés. Elles voulaient interroger la place des femmes, réduites souvent dans la société kosovare, à accomplir des tâches abrutissantes, du style « les courses ». Elles veulent contester ce qu'elles estiment être une façon d'être au monde limitée. Ensuite, à la sortie du film américain Three Billboards, dont vous vous rappelez peut-être, elles avaient loué 3 pancartes proches d'un commissariat pour attirer l'attention sur les violences conjugales. En 2017, les 4 filles se sont rasées le visage en public dans une performance intitulée « Raser le patriarcat ». Même si elles sont de plus en plus souvent invitées pour des résidences et expositions, comme récemment à Tirana, Stockholm ou Munich, elles revendiquent avant tout le besoin de produire leurs actions dans l'espace public, plutôt que dans les galeries d'art.
Ce qui est beau là-dedans, c'est que les gens qui passent par là, ils s'arrêtent, ou pas. Mais de toute façon, ils te voient, ils s'intéressent. Et même s'ils n'aiment pas, d'une certaine manière, c'est plus honnête, plus vivant et plus brut. Même si c'est un avis négatif, ça montre qu'ils y réfléchissent. Je trouve ça très émouvant, alors que dans une galerie, le public est préparé à ce qu'il attend. Quand tu sais que tu vas voir un spectacle à 20h, tu te renseignes, tu te prépares, tu sais ce qui t'attend, tu regardes si c'est une pièce comique ou si c'est autre chose, alors que dans la rue, c'est spontané.
Le projet Aveit reste difficile à financer. Les 4 filles ont finalement accepté des sous, mais pas pour toutes les actions. Notamment pour celles autour des droits des femmes, elles ne veulent pas qu'on puisse penser qu'elles sont encouragées ou financées par des structures extérieures. Par ailleurs, si elles ont choisi de faire leur performance dans la rue, à mi-chemin entre l'art et l'activisme, comme elles disent, c'est aussi parce que les lieux d'art et de rassemblement manquent à Pristina. Pour toutes ces raisons, elles prennent donc la rue, et je demande à Lola de me parler d'une de ces actions qui a le plus marqué. Elle me répond que c'est celle de 2014, le baiser. Les 4 filles ont pris une photo d'elle alors que 2 par 2, pour la Saint-Valentin, elles s'embrassaient sur la bouche. L'idée alors, c'était de protester contre l'homophobie.
On a attiré l'attention et les gens ont plus parlé de la cause LGBT. C'était pas forcément volontaire, mais c'était pas plus mal. Et aujourd'hui, on peut en parler plus librement. Ça a été une étape nécessaire. En fait, avant notre action, le magazine Kosovo 2.0 avait sorti un numéro sur le sexe. Et il y a eu des musulmans extrémistes, des équipes de foot, de basketball, qui se sont réunis pour protéger les mœurs du Kosovo. Parce que Kosovo 2.0 parlait aussi de la cause LGBT. Concrètement, ils sont venus au lancement de ce numéro un peu spécial pour protester, et ça a fait un scandale. Ils ont frappé un de mes amis ce jour-là. Et après ça, c'était parti. Kosovo 2.0 a vraiment marqué un commencement. Notre première performance, c'était un hommage à une femme assassinée par son mari. Elle a appelé la police, mais la police n'a rien fait. Et c'est pas parce qu'on n'est pas dans la même situation qu'il ne faut pas s'en indigner. Elle était d'ici, et nous aussi ça pourrait nous arriver, à tous. C'est pareil avec les droits des LGBT. C'est pas parce qu'on n'est pas directement concerné qu'il ne faut pas s'y intéresser, parce qu'une société inégale, ça finira par nous porter préjudice. Depuis que je suis adolescente, je sais que l'homosexualité n'est pas une maladie. Mes amis et moi, on n'a jamais considéré que c'était un problème.
Ça, c'est comme ça dans le reste de la société kosovare.
Non, that's how we found out because
non,
we thought
on s'est
we
bien rendu compte
bubble,
qu'on vivait dans
know?
Une bulle.
And that's how we take the picture because we thought it's
c'est pour ça qu'on a osé prendre la photo. On pensait
like,
que ça serait
yeah,
mignon. On pensait que les gens ne seraient peut-être pas tous d'accord, mais on s'attendait pas à autant de haine.
It, we live, you know,
et c'est là qu'on a compris quelque chose de la société kosovare.
Where you are, they can't believe this.
Les Kosovars n'arrivent pas à croire qu'il y a des jeunes au Kosovo qui veulent juste sincèrement changer ce pays. Parce que c'est vrai, les gens sont fatigués des guerres, de la pauvreté, de la corruption. Alors, ils ne peuvent pas croire qu'on ait encore de l'espoir. Mais quand on a parlé des questions LGBT, ils ont été de plus en plus agressifs avec notre travail, en évoquant l'identité nationale, en disant qu'on souillait l'image du pays. Et c'est ça qui nous a inspiré d'ailleurs, la lecture des commentaires, parce qu'on les lit tous.
Je lis dans une interview, toujours dans le magazine Kosovo 2.0, qu'Anna, une autre activiste du projet, disait que tous les commentaires sur Facebook montrent la réticence pour la société kosovare à accepter le changement. Les gens en ont peur, dit-elle. Depuis la fin de la guerre, la situation ne change pas au Kosovo. Et ce n'est pas grâce à Avet que les choses vont changer, mais au moins, ça fait parler les gens, soit entre eux, soit pour nous critiquer. Au moins, ça permet de s'exprimer sur les frustrations quotidiennes qu'on peut vivre ici.
This is the picture.
Ça, c'est la photo du baiser.
The minute that we were doing the picture, it was like
le moment où on a pris la photo du baiser, les gens étaient déjà en colère.
People got really angry.
Nous, on tremblait.
Because people got like everybody stopped and looked at us and
tout le monde s'est arrêté pour nous regarder en nous traitant de putes, en nous accusant de faire une gay pride.
We didn't even kiss, we just got
quand on
closer,
s'est embrassés, ils ont commencé à nous hurler dessus. Kiss, like on pouvait vraiment sentir la haine dans la rue, alors même qu'on avait juste pris une photo.
It was a lot,
et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça?
Après la publication de la photo, elles ont reçu des douzaines de menaces de mort. Elles ont fini par aller voir la police pour les dénoncer. Ceux-ci leur ont dit qu'ils étaient déjà au courant du happening, car plusieurs personnes les avaient appelées pour leur demander qu'elles soient arrêtées. Elles ont ensuite imaginé d'autres actions autour du même thème, en retrouvant notamment des mentions d'amour entre personnes de même sexe dans les vieux poèmes albanais.
Hello.
Hello, bonjour.
Bonjour, ah, c'est vous le papa?
On a parlé tard avec Lola. Sa famille a fini par rentrer de l'enterrement où ils étaient partis pour la journée. Le père de Lola a décidé alors d'imprimer les traductions qu'il réalise de poètes kosovars vers le français.
Mais en tout cas, dis donc, elles sont géniales vos filles. Hein. C'est super.
Aussi. C'est cool.
Ouais, c'est passionnant. Vous êtes d'accord avec ce qu'elles font?
Oui, oui, tout à fait.
Vous n'avez pas peur pour elles?
Ah non.
Vous n'avez pas mis de limite?
Non.
Et puis, comme ils ont tous proposé d'aller acheter à boire pour passer la soirée ensemble. Dans l'interview donnée par le collectif au magazine Kosovo 2.0, les militantes de Havet disent qu'elles ont souvent été très critiquées sur les réseaux sociaux pour leurs actions culottées, mais qu'elles veulent continuer pour pousser tous ceux qui ont des choses à dire à mettre de côté leur paresse et leur peur, à ne pas penser trop aux conséquences et à agir. Elles disent, pour ceux qui ont des projets, des idées, qui veulent changer notre environnement social, il faut arrêter de se limiter à en parler autour d'une bière au café. Parce qu'en fait, c'est en réalité souvent très simple et important de faire ce qu'on a envie de faire et de dire ce qu'on a envie de dire. Merci à elles pour leur courage et leurs actions. Merci à Manon en Suisse. Merci à vous tous pour votre écoute, vos commentaires sur les réseaux sociaux de Full Continental. Merci à ceux qui podcastent. C'est le kiff d'être là, de pouvoir s'emparer de ces sujets et d'avoir cet espace. Merci à ceux qui produisent l'émission à mes côtés chaque semaine. C'est aussi le kiff de bosser avec vous. Il y avait pour cet épisode Anna Bui à la réalisation, Lucie Lemarchand au montage et Niklas Munk. Disons aussi que Victoire Fort et Juliette Proutot étaient dans les parages. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Voilà Pomme. Je sais pas.